et bienvenue dans Certains Lamas Show, l'émission qui manifeste côté des films à la sortie. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Celle qui a la chance de voir des blagues partout et de rire tout le temps.
Y a ça.
C'est une chance. Salut.
Et notre ami fidèle Marwan.
Salut.
Aujourd'hui, nouvelle semaine de cinéma avec de magnifiques films à l'affiche. On commencera par...
Tout simplement Noir.
Suivi de...
Scooby.
Et...
Lucky Strike.
Et parce qu'on vous adore et qu'on vous aime bien, on vous a dégoté une petite avant-première, un petit avant-goût de la semaine qui suivra avec Été 85 de François Ozon.
Il y a un très bel avant-goût et n'oublions pas, parce qu'on en a parlé samedi dernier du coup, faut suivre un petit peu, qu'aujourd'hui est aussi la sortie de Chained que nous avions vu en avant-première et qu'on vous a beaucoup conseillé. Donc n'oubliez pas que celui-ci aussi fait partie des sorties.
Et oui, il y a tellement de sorties, tellement de trucs à voir.
C'est pas un noir, ça. Je vous demande de l'Afrique, vous me ramenez Montreuil.
C'est dans ce que tu fais avec tes fesses, tes grosses fesses, c'est un peu cliché, non?
Ferme ta bouche, là. Avec tes dents qui sortent, là, t'arrives même pas à les rentrer.
Travaille, mets un peu de conscience, mets un peu de fond, mets un peu de maturité. C'est tout.
Ah, ça va. C'est pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap.
C'est des films de vendus, des films de bounty, voilà.
Et celle-là, là, t'as tort ou t'as pas tort?
Allez, ta main,
j'ai dit une connerie?
Noir, tout simplement Noir. La comédie française de la semaine. Pas de fond bleu, pas de titre jaune. C'est la bonne nouvelle du jour.
Généralement, c'est qu'elles sont bien, celles-là.
Film de Jean-Pascal Zadi et John Wax. Jean-Pascal Zadi, humoriste, homme à sketch, le gars sûr dans les émissions de télé, impliqué sur la question noire dans des vidéos YouTube. Enfin, du coup, moi, c'est l'introduction du film. Homme de spectacle aussi, il a co-scénarisé Black Snake également. Donc moi, quand j'ai lu ça, j'étais pas super confiant. Et puis moi, ces passages télé, j'étais pas trop emballé, donc j'avais un peu peur. Et le film est présenté comme un film caméra épaule, un film petit budget finalement, et avec une liste de guests incroyable. On ne pourra pas citer tout le monde, mais on aura notamment Farid, Claudia Tagbo, Fabrice Eboué, Lucien Jean-Baptiste, Eric Judor, Jonathan Cohen, Joey Starr, entre autres. L'histoire de Jean-Pascal Zadi qui veut organiser une grande marche noire pour mettre en valeur, pour lutter contre les discriminations contre l'homme noir, et qui va essayer de rameuter du monde le plus de... qui, ramener des stars, ramener des politiques, des acteurs, des artistes, des sportifs, pour parler de sa marche. Et on va suivre le doc de l'organisation de cette marche. Va-t-il réussir à remplir la République? Fera-t-il le buzz? Avec moi, j'ai mes militants associés, j'ai mes marcheurs.
Des marcheurs blancs.
Ça y est, ça commence, quoi.
Allez, c'est parti. Donc il y a ça, voilà.
Salut.
Thierry est dépité.
Je suis effaré.
Est-ce qu'on tombe dans le film à sketch?
Alors oui et non. En fait, c'est fou parce que c'est un film qui est entièrement composé de sketch, mais j'ai pas eu l'impression de voir un film à sketch. J'ai vraiment eu l'impression de voir un gars qui évoluait vraiment de tableau en tableau pour essayer de rameuter son monde. Et alors que par contre, oui, en effet, c'est vraiment construit comme un film à sketch. Hein. Il va vraiment passer d'une guest à l'autre, hein, parce que c'est clairement ça l'intérêt de ce truc, et de voir comment ça va évoluer. Par contre, c'est assez brillant, je trouve, parce que, enfin, je me trompe peut-être, hein, mais je pense pas. J'ai l'impression que c'est très écrit, en fait, et que ça fait croire que ça l'est pas. Et c'est génial, c'est ça qui est assez brillant. Ça me faisait penser au truc que faisait Sacha Baron Cohen avant, sauf que lui, il écrivait et il écrivait pas certains de ses sketchs, et il jouait sur le côté on verra comment les gens sont surpris, et ça passait très bien. Mais là, c'est dingue ce qu'il a réussi à faire à certaines personnes, quoi. Je trouve ça. Enfin, moi, ne serait-ce que je me suis arrêté là en mode attends, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Je veux dire, on va en parler après, mais c'est assez hallucinant. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont ça va jouer sur l'engagement. Ça joue sur quelqu'un qui est très engagé, qui croit énormément à ses causes, mais qui est complètement con, et qui du coup sait pas du tout comment les mettre en avant, et oublie la moitié de ce qu'il faut faire, et se rend même pas compte au final de ce pourquoi il s'engage, parce qu'il se contredit constamment, et il va rencontrer des gens qui vont constamment lui refoutre dans la gueule, qui disent des conneries, quoi. Et mais par contre, ça se moque de l'hypocrisie de toutes les personnes qui veulent s'engager aussi, pour des très mauvaises raisons, pour leur image, pour plein de choses, et on voit tous ces portraits. Mais par contre, ça met jamais en doute la beauté et la pureté d'un engagement. Genre, le mec croit à son truc, et ça, c'est beau aussi, et on te le montre aussi. Enfin, je trouve que ça joue bien sur les deux tableaux, quoi.
Oui, puis c'est plus, je pense que ça pose plus les paradoxes de l'engagement extrémiste, c'est-à-dire que ben, il veut qu'on remette l'homme noir à sa place. En plus, c'est franchement, c'est un thème d'actualité. On a le Black Lives Matter, on a eu des manifestations raciales. Il y a eu. Voilà, je veux dire, il est servi par l'actualité et il montre en même temps les contradictions. C'est-à-dire que oui, l'homme noir, mais c'est quoi un homme noir aujourd'hui? Et en fait, ça montre que la question est plus complexe que ce que ça en a l'air comme ça. Ça a l'air simple et en fait, pas tant que ça. Et tout est mis en relief tout en étant finalement en servant le propos. On a une belle écriture. Ils avaient peur du symptôme film à sketch, c'est-à-dire que bon, ils ont fait d'abord les comme ils vont voir des stars et que effectivement il y a une séquence avec les stars. Au début, ça faisait un peu ça, puis ils ont retourné quelques scènes pour faire du liant. Et de ce que j'ai lu, ils ont viré aussi les situations les plus loufoques. Je veux pas imaginer ce que c'est parce qu'il y en a une.
Donc ce qu'on a vu, c'est le moins loufoque.
Ouais, celle avec Lucien Jean-Baptiste, c'était moins loufoque que ce qu'ils ont.
Ça va falloir qu'on en parle. Mais ça, entre ça et le passage avec Mathieu Kassovitz aussi. Oh putain, enfin, on va en parler. Mais
il y a ça.
Je trouve que, oui, justement, film à sketch, pour moi, extrêmement réussi, parce qu'on rigole, mais à la fois, le message qu'il veut véhiculer, je pense qu'il atteint la cible. Parce qu'on rit, mais on se dit, oh non, mais c'est pas possible de faire ça, c'est pas possible de dire ça. On peut plus, aujourd'hui, en 2020, se fendre la poire ou rigoler ou prendre avec légèreté les propos, certains propos qui sont donnés dans ce film. Alors c'est fait pour, hein. Il y a beaucoup de, à la fois d'autodérision et de satire. Du coup, on sait ce qu'on va voir parce que c'est porté par un personnage noir. Donc on sait qu'il y a déjà du recul par rapport à sa situation à lui. Donc nous déjà, on est un petit peu dédouané d'une certaine culpabilité de rire face à ces blagues-là. Mais à chaque fois qu'il y avait des blagues qui seraient toutes passées tout à fait normalement, des blagues vraiment au premier degré qui seraient passées normalement il y a 10, 15, 20 ans, aujourd'hui tu ris mais tu fais « Ah ouais, mais non, ça va loin, quoi ». Une blague où quelqu'un mesure la largeur du nez d'un noir, je veux dire, ça serait passé dans les filles d'à côté il y a 20 ans, 30 ans, on aurait dit « Oh là là, c'est trop drôle !» Je me souviens d'une image d'une fille africaine qui débarquait chez les garçons et qui était là et qui faisait des bruits, voilà, et qui se prosternait, enfin qui jouait l'africaine, quoi. Et là, on est là à faire des trucs aussi qui renvoient aussi à cette image, à cette caricature qu'on a des Africains et qu'on dit « Bon, qu'est-ce qui est vraiment africain? Qu'est-ce qui est vraiment français ?» Il y a aussi cette perte, ces repères identitaires qui sont complètement floués parce que plus personne sait à quoi il appartient. Et en fait, là, on se dit mais c'est pas possible. Mais en même temps, j'ai l'impression que le film nous autorise à en rire tout en nous rendant compte que c'est absurde de qualifier, de traiter, de penser, d'avoir ces pensées-là envers les Africains.
Et les Antillais. N'oublie pas les Martiniquais, attention.
Mais c'est vrai que c'est assez marrant parce que tu parles le passage auquel tu fais référence, c'est le passage où du coup Jean-Pascal Zadi va, parce qu'il va aussi, il est comédien, donc du coup il fait des castings, il essaye de percer, il a fait le cours Florent, il est très persuadé de son talent à ce personnage, alors que bon, clairement quand tu le vois se faire caster, il est pas très bon. Et il va justement à un casting pour un film de Mathieu Kassovitz qui veut parler de l'Afrique noire et qui justement déjà Mathieu Kassovitz s'énerve dès qu'il le voit, il fait c'est pas un Africain, c'est quoi ce truc que tu m'as ramené, tu vois, t'as un comportement de blanc.
Je t'ai demandé l'Afrique, tu m'as ramené Montreuil.
c'est ça. Et après, cela dit, ce que ça veut dire aussi, et qui n'est pas forcément faux, c'est qu'il y a aussi le côté appartenance par la naissance, où les mecs ont jamais vécu là-bas et portent des fois des combats sans trop savoir ce que c'est. Et c'est ce que le film dénonce également. Enfin, il lui hurle dessus, il le traite comme une merde. Et moi, ça montre aussi la manière dont, ça tape sur plein de points, et ça montre aussi la manière dont ça se passe dans ce genre de truc. Et l'autre casting est intéressant. Il y a un autre casting où il est censé jouer un dealer, et c'est quand même un mec blanc en plus qui lui explique son personnage, et le gars pue le bobo bohème du 5e qui lui dit non mais tu vois t'es un dealer parce que tu comprends, puis il était aussi radicalisé à l'islam évidemment parce que forcément t'es un noir, tu vois.
T'es un dealer violeur radicalisé à l'espoir, mais t'as des sentiments, t'as mot.
Voilà quoi. Et le gars il te sort le truc en mode je t'explique bien le personnage, une fois que t'as compris vas-y dis la phrase, et la phrase c'est juste eh sale pute t'es bonne. Et t'es là, tu vois le truc, tu te dis, et après il sort et t'as ce pauvre Jean-Pascal qui regarde sa femme et qui dit non, mais là il y avait un peu de composition, il y avait un peu de personnage, et c'est aussi une manière de dire, c'est vrai qu'on leur propose malheureusement toujours ces rôles-là. Et ce qui, enfin voilà, ce qui m'a marqué, c'est par exemple surtout tout ce que va jouer Farid en fait, qui est quand même cette espèce de mec qui va s'engager dans ce truc-là parce qu'il se dit que ça va contrebalancer le fait qu'en ce moment il avait dû poser avec un t-shirt avec une banane, et donc du coup il essaie de contrebalancer ça. C'est juste pour son image, le mec on a rien à foutre, en plus il écrit des comédies de mœurs dégueulasses. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé justement ce côté-là, ce côté va avoir des stars mais va avoir, enfin réfléchis à ce qu'elles vont t'apporter, parce que elles ont percé, elles ont réussi, ils sont plus dans ce monde-là, ils sont plus dans l'engagement maintenant, ils sont plus dans, et donc est-ce qu'ils vont vraiment t'apporter quelque chose, quoi.
Oui, il y a ceux qui vont dans les mouvements parce que le pognon, l'image, et effectivement, et en même temps les contradictions. Est-ce que t'es prêt à te renier pour du pognon? Je vais te proposer un film avec un salaire à 6 chiffres. Vas-y, signe, c'est bon, t'inquiète.
T'as les yeux dans le vague et tu réfléchis 2 secondes, quoi.
Et il y a Éric Judor.
Ah, Éric Judor.
C'était visiblement le seul qu'il fallait aller voir, parce que lui, il y croit à fond.
Ah, c'est ouais. Sublime, c'est ce passage-là. Enfin, j'ai vraiment aimé tous les passages, mais c'est Éric Judor qui commence petit à petit à être convaincu, tu vois, qu'il est noir. Et puis qui est nègre, et puis qui est négro, et puis et là,
tu vas trop loin. Tu vas trop
non mais il escalade, oui, voilà, il va trop, c'est-à-dire il escalade au fur et à mesure, il est dans le délire, quoi, et banania, quoi. c'est incroyable. Après, je me dis que c'est un film qui peut être salutaire pour les Noirs, puisque ça, disons que ça les montre, j'ai l'impression, sous un autre jour, enfin qu'on montre le combat d'une autre manière. Mais je pense aussi que ça peut être dangereux pour les gens qui sont complètement hermétiques à ce combat et qui, enfin, voilà, j'ai pas envie de dire racistes, mais disons qui ont du mal à comprendre ça. Et je pense qu'ils pourraient aller voir ce film juste pour se bidonner bêtement, grassement. Voilà. Donc, j'ai... Enfin, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une certaine intelligence émotionnelle et une certaine compréhension des enjeux dans lesquels on est pour apprécier ce film. Quand même, à sa juste valeur.
Lucien Jean-Baptiste et Patrice Évry qui se renvoient leur filmographie à la gueule.
Ouais. D'ailleurs, j'ai pas. Vite fait, oui. Je vais juste rebondir sur ce passage sans en parler, parce que le passage de Lucien Jean-Baptiste, faut que vous le découvriez en salle. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Lucien Jean? Et justement, c'est fantastique qu'ils aient utilisé ce mec-là pour lui faire faire ce qu'ils lui ont fait faire, parce qu'on s'attend à tout sur façade de sa part. Il est beaucoup trop propre sur lui, beaucoup trop mignon. Et en fait, ce mec... Enfin, après, j'avais déjà vu des documentaires de Lucien Jean-Baptiste. Ce mec a une paire de baloches énormes en réalité. Et là, clairement, Zadie, il a dû lui dire « Tu la sors et tu la fous sur la table de suite, ta paire de baloches. » Il l'a fait. Voilà. Mais c'est vrai que le passage où il renvoie à Fabrice Sébouet, qui a ce départ dans la gueule et qui lui dit rends-toi compte que quand même tout son te rappelle, c'est le psy dans Bref là, qui dit t'as une grosse bite et tout là. Et voilà, il fait c'est tout ce qu'on retient de ton film. Mais le pire, c'est que c'est vrai en fait. Enfin, moi, quand j'en parle avec des gens de Casse Départ, je l'avais bien apprécié en salle et je l'ai revu. J'ai fait ah ouais, bon, c'est pas si bien. Et chaque fois que j'en parle à quelqu'un, ils sont tous là. Le seul truc qu'ils retiennent, c'est ça, c'est liberté, égalité, va te faire niquer et le passage de la grosse bite. Donc en vrai, Lucien Jean-Baptiste a carrément raison, quoi. C'est un film qui était censé dénoncer aussi certaines choses. On en retient que l'aspect comique. Et c'est ça le travers de la comédie, c'est que tu peux aussi retenir que les passages bidonnants. Le passage où on se moque des dents de Zadie, tout ça, qui c'est marrant, tu vois. Et on pourrait ne pas passer à côté du message. Enfin, on pourrait passer à côté du message. Et là, justement, c'est là que je trouve qu'il y a une pertinence. C'est que justement, on te fait rire de quelque chose et que 2 secondes après, tu réfléchis à putain, pourquoi j'ai ri. Et c'est là que ça blesse, en fait. Et je trouve que c'est très équilibré là-dessus.
Je voulais juste dire, il y a une apparition de Joey Starr, et en fait j'avais l'impression d'être Joey Starr, ou que Joey Starr était moi, enfin qui était spectateur, parce qu'il réagissait aux propos des personnages exactement comme je réagissais aussi. C'était génial, ça.
Mais parce qu'il souligne l'extrémisme du truc, oui. Quoi. C'est quoi noir pour toi? C'est un mec avec des cheveux crépus et trucs. Et il dit, oui, mais du coup, s'il se fait lisser les cheveux, est-ce qu'il vient à la marche?
Non, mais disons que ça fait plaisir de voir que nos réactions aux propos qui sont donnés sont validées dans le film, de se dire que voilà, je suis dans la bonne direction, donc disons qu'il y a je réceptionne bien le film, quoi.
Voilà, et puis ça se moque des extrémistes en général, voilà. De se moquer d'un mec qui parle d'eugénisme sans qu'il porte une croix gammée, ça change, quoi. Ça change.
C'est vrai que le passage chez Ramsey, il est assez corsé aussi dans tout ce que ça balance, quoi. C'est, on veut être soudé avec vous, mais pas non plus soudé, faut pas exagérer. Tu vois,
c'est dans les extraits communiqués du film. Oui.
Ouais, c'est que quand ça les arrange, tu vois. Et c'est tellement pas faux ce qu'il raconte, c'est tellement vrai ce qu'il raconte. Donc voilà, c'est allez le voir. Vraiment, vraiment, si c'était votre sortie de la semaine. Votre petite balade, allez voir Simplement Noir.
Très belle comédie, très bonne comédie. Un coup de cœur de la rédaction de Claque. Wow, on parle de rédaction. Ouais, carrément rédaction. Voilà.
Wow. Sammy et Scooby ont été enlevés. Est-ce que tu te rends compte où on est?
Non.
Ouvre les yeux, mon vieux. Un style moderne à l'esthétique sobre, un bleu apaisant décliné sur plusieurs tons. On est...
Chez
Ikea. Tu es projeté dans le futur. T'as dit chez Ikea?
Non, j'ai dit dans le futur. J'ai dit comme toi.
Ceci va peut-être nous conduire à Sammy et Scooby. Il y a des traces d'après-rasage et de whisky de 12 ans d'âge.
Ah, alors c'est mon père, le méchant de l'histoire.
Scooby ou Scoob en VO.
Je pensais que t'allais faire la voix de Scooby-Doo.
Oulala. Ah non, ça c'est Homer Simpson.
Ça c'est Homer.
Oulala. Alors, mais en fait, Scooby, c'est un mélange entre Homer et Marge. Oulala. Il y a un truc, hein, il y a quelque chose.
Je me rappelle plus comment était le doublage dans la série animée que je regardais quand j'étais petit.
Il faisait moins mal aux oreilles.
Ah non, parce que là vraiment, j'ai vraiment eu envie de me casser dès les 5 premières minutes. Je me suis dit, ça va pas être possible dans le doublage de Scooby.
Je te dis, c'était un, on était assez proche d'Homer Simpson, mais avec un petit coup rock, un petit râle.
Vu qu'il y a plein de... Ils auraient pu y apparaître, hein, parce que vu qu'il y a plein de petits personnages de d'autres séries qui...
C'est ça, des crossovers. Ouais, alors Scooby, donc on reprend. Scooby, c'est... un film Warner Animation, super.
Déjà, tu lances le ton de la super, ouais, voilà, c'est bon, t'as bien capté quelle va être la tonalité de l'épisode, là.
De Tony Cervone avec plein de doubleurs, avec Zac Efron, Kiersey Clemson, Will Forte, Jason Isaac, Amanda Seyfried qui fait Daphné.
Il y a Christina Hendricks aussi, il y a Ken Jeong et bizarrement ils ont des mauvais rôles. Tu vois, c'est, pose-toi les bonnes questions.
Et il y a Mark Wahlberg aussi.
Il y a Mark Wahlberg, ouais, Mark Wahlberg il est partout en ce moment, tu sais, et ça fait quand même pas mal d'années qu'il fait plus trop les bons choix.
Bon, tous ces noms, vous en foutez parce que de toute façon, la VO est très peu distribuée.
Oui, on l'a vu en VF. Hein. Il y a qui en VF?
Je sais pas.
Il y a la voix de Howard dans The Big Bang Theory. C'est celle que j'ai reconnue.
Ah ouais?
Ouais. C'est Falcon, je sais plus quoi. Ouais, c'est Blue Falcon.
Oui, c'est la seule bonne voix. La seule voix sympa, c'est celle de Blue Falcon. Et non, il y a si. Non, c'est pas vrai. La voix que j'aimais bien aussi, c'était celle de Satanas.
Ah oui.
Alors. Déjà, quand on dit le casting et que je dis la voix de sympa, c'était celle de Satanas, vous entendez bien qu'il y a un truc qui cloche. C'est le cas de le dire. En plus, c'est pas fait exprès, c'est une vraie cloche de la vraie vie qui vient d'apparaître. C'est-à-dire que on n'a pas à faire un film Scooby-Doo, on a à faire un film Hanna et Barbera Universe. Ça n'avait pas très très bien marché avec les super-héros d'ici.
On avait l'impression qu'ils voulaient faire leur propre film de super-héros en animation. Je voulais essayer de se rattraper par rapport à Justice League, mais finalement, c'est aussi une cata. C'est dommage.
C'est Warner aussi, putain, oui, c'est vrai.
Ah, alors, je suis avec Yassa, vous l'avez entendu.
Yes, yes.
Je suis avec Thierry aussi.
C'est comme ça, c'est ça.
Ouais, voilà. Donc, bon, finalement, on va pas faire de doublage. Et Marwan nous a rejoint. Marwan nous a rejoint exprès pour ce film. Et on est allé voir ce film exprès pour Marwan.
C'est vrai.
Donc, Marwan, c'est toi qui ouvres.
Le bal, d'accord. Alors, je pense être celui qui a le plus apprécié le film. Après, n'exagérons rien, je l'ai pas apprécié grandement. Mais j'ai trouvé que Scooby est un film qui ne sait pas où se placer. Qui n'a pas la facilité, l'aisance de jouer avec les spectateurs adultes et les spectateurs enfants. Je pense qu'en réalité, c'est le film parfait pour les spectateurs enfants. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ne sont pas investis que dans ce principe-là. Et ils ont décidé de quand même faire des vannes méta ou des vannes pour les adultes. Mais c'est ça qui, pour nous sauvait du reste, parce qu'en termes de scénario, il n'y a rien du tout. C'est que des Deus Ex Machina tout le temps. Et puis et des personnages qui ne sont pas vraiment mis en valeur à cause de l'animation qui est, je trouve, difficile à apprécier. Et puis des personnages donc, également qui manque de profondeur, quoi que ce soit. Quoi. C'est vraiment que du gag, que des références aux anciennes séries. Et j'ai quand même ri très 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 fort pour certaines blagues. Mais voilà, je trouvais que... Mais sinon, pour le reste, c'était assez ennuyé. On s'ennuyait assez vite, finalement. Donc voilà. Mais c'est pas mauvais. Vraiment, pour les enfants, ce sera un très très bon moment. J'invite tout le monde, avec des enfants, à aller voir le film. Mais pour les adultes, pas du tout. Faut pas. C'est pas bien. C'est pas drôle. À part d'une blague de Netflix, une blague avec le mec qui est dans La Nouvelle Star américaine. Ouais, c'est pas très drôle. Mais voilà. mais je vais laisser maintenant mes comparses déchirer le film à pleines dents. Bisous.
Oui, alors ça, c'était la défense du film, donc.
Non, mais ça va. Et c'est un film pour les gamins, on va pas non plus l'éclater. Gamin pas tout court. Moi, tu sais, le dernier film, vraiment, je pense qu'il était très adapté, petite enfance, ce qu'on avait vu. Je dirais que c'était Shaun le Mouton 2. Et les enfants étaient bien poilés dans la salle et ça jouait bien. Là, les enfants se marraient pas. À la limite, quand Falcon se tape un mur, ça a rigolé à peu près. Mais non, les gars qui fonctionnent pas tant, en fait. Alors, il y avait pas beaucoup de gamins. C'est même pas tant ça, moi je sais vraiment pas sur quoi ils se sont placés. Et en fait, le problème, c'est que j'ai juste reconnu les persos dans le visuel et dans les traits de caractère vite fait. Mais alors, j'ai pas connu toutes les incarnations de Scooby-Doo. Il y a eu plusieurs séries, certaines a priori réussies, certaines beaucoup moins. Moi, j'en ai un souvenir très très affectif de mon enfance. Et là, à part le fait de me dire, ah, ok, c'est ces persos-là, je les ai pas spécialement retrouvés, quoi. Et j'ai eu l'impression que de toute façon, ils savaient pas quoi raconter, qu'ils s'en foutaient, que l'essentiel c'était juste de faire des gags avec eux dedans. Et sauf que c'est des gags qui tombe souvent à plat. Il y en a 2-3 où tu souris à peu près, où tu te dis ok, ça fonctionnera peut-être pour un gosse, mais la majorité du temps, moi j'étais vraiment ailleurs, quoi. J'ai vraiment pas trouvé ça bien du tout. Et en plus, voilà, je l'ai déjà dit, mais le doublage, bordel, quoi, enfin le doublage VF est ignoble.
Je me rendais compte que quelques blagues marchaient et au bout d'une heure, plus rien. C'était le vide intersidéral, c'est qu'il n'arrivait plus du tout à faire rire, il n'y avait plus du tout de rythme. Et c'est ça la différence, c'est que vraiment au début on se mariait un petit peu de temps en temps, même s'il y avait beaucoup de plaintes par Thierry et et Thomas, mais voilà, mais quand même.
Les vieux du Muppet Show.
Meilleure référence au monde, voilà.
Sur l'affiche, il y a un jeune Scooby, parce qu'on va dire, ouais, on va voir l'origine story et tout. Et en fait, bah, c'est juste la séquence d'intro. Après, il y a générique et on passe à autre chose.
C'est juste pour la rencontre entre tous et voilà. Bon, après, pourquoi pas, pourquoi pas.
Et le pouvoir de l'amitié surtout.
Ouais, mais faire ton affiche là-dessus, c'est un peu léger, je trouve.
C'est clair que moi, ça m'a été vendu et c'est pour ça qu'au début. Et ça m'a encore plus agacé parce que vu qu'ils font le même doublage de Scooby adulte et enfant, il a vraiment une voix horrible quand il est gosse. Mais oui, voilà, moi je pensais que ça allait être limite un préquel, quoi, où nous montrer, eux version enfant. C'est vrai que ça aurait été un parti pris au moins sympathique. D'ailleurs, il y a une petite histoire avec un fantôme au tout début qui ressemble à ce que j'aime bien chez Scooby-Doo. Et je me suis dit, bon, bah, ça va pas se prendre le chou, mais ça peut être potentiellement sympa.
Et non. C'était dur, quoi. Ouais, ils ont expédié l'histoire Scooby-Doo, donc pas d'enquête, hein, voilà. Et donc un gros gloubi-boulga avec Satana, son méchant, qui cherche Diabolo, hein, voilà.
Diabolo, on le voit à peine. Diabolo, merde, quoi.
Là, il y a Blue Falcon qui était un héros, mais qui apparaît aussi dans d'autres films Scooby-Doo. Et on a le Capitaine Caverne qui est là, voilà. À un moment, j'ai cru qu'on allait voir les pierres à feu. On n'était pas loin.
Déjà, il faut savoir que moi, j'ai du mal graphiquement avec ces trucs en 3D super lisses. Ou c'est en 3D, mais il n'y a pas de relief. Enfin, déjà, ça, ouais. Si c'est...
Ah ouais, non, vrai, c'est ça.
Et encore, ça serait sur des licences originales dont on ne connaît pas les personnages et qu'on découvre à la limite. Ça passe mieux pour moi. Mais sur des figures aussi emblématiques... J'ai déjà du mal à avaler la pilule, donc déjà de me coltiner ça visuellement, ça n'a pas été simple. Et puis le scénario, c'est comme disait Marwan, en fait c'est vraiment pour les tout petits, pour voilà, les dialogues sont très très simples, très peu de profondeur, très peu de surprise, ou voilà, c'est comme quand on s'adresse à un enfant et qu'on essaye de lui faire comprendre des concepts un peu abstraits, qu'on essaye d'utiliser des mots très simples.
L'amitié.
Le pouvoir de l'amitié qui sauve tout à la fin.
Et là en plus c'est texto, quoi.
Oui, non mais voilà. Voilà, on s'adresse à des enfants, littéralement. Et du coup, ce qui fait que nous, en tant qu'adultes, ben, voilà, c'est des choses qu'on nous a rabâchées, qu'on entend tout le temps. Et puis finalement, c'est éculé, quoi. Ça n'a plus vraiment de sens pour nous, en tant qu'adultes.
Oui.
Tu vois ?
Mais en même temps, c'est un film qui veut s'adresser à des gamins, mais qui le fait. Alors bon, pour des gamins, on va faire ça, ça et ça, on va cocher les cases. On va faire de l'animation 3D parce que les gamins maintenant, la 2D, ils la regardent plus. Donc...
C'est tellement pas vrai. C'est un gros préjugé.
C'est un gros préjugé, mais moi j'ai un petit frère, il est tout petit. Il est en maternelle et quand il regarde des dessins animés, si c'est pas en 3D, il l'escampe. Il le jette, il en veut pas.
On appelle ça l'éducation. Mais aussi ce que je voulais dire, Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, l'animation du film m'a fait penser à ces... quand on va sur un site porno, il y a les petites pubs, genre aller voir les Simpsons ou avoir genre les dessins animés, et c'est la même type d'animation. Et tu te dis, oh, si c'est aussi mauvais que des trucs porno, voilà, que des pop-up porno, c'est pas
terrible. Tu viens de comparer des dessins animés pour enfants à du porno.
Et je crois que c'est mon dernier épisode, je m'en vais.
Alors, la question, faut-il les éveiller faut-il les éveiller à l'animation 3D ou au porno? Parce que de toute façon, il y en a un qui leur servira peut-être plus que l'autre.
Ouais. Maintenant, quand tu critiques l'éducation, j'ai comme un doute en fait.
Et puis le pouvoir de l'amitié dans un porno, ça peut être intéressant finalement.
Non, mais Marwan, tu sais, pour lui, l'éducation des enfants, ça doit se faire comme dans Good Boy, ça se mettre des balançoires dans sa chambre et leur dire allez jouer les enfants.
Ouais, bon, bref.
Mais en vrai, tu vois, c'était comme tu le disais, Marwan, c'était assez drôle au début. J'ai pas mal rigolé à 2-3 trucs. Et puis, ça s'est filoché au fil du temps. Et à la fin, on a été un petit peu récompensé de notre attente avec la révélation du méchant et puis le double masque.
Scooby-Doo, s'il n'y a pas un double masque, en fait. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a un désir de vouloir utiliser Scooby-Doo, la licence. Il y a un désir d'hommage. On reprend les doublages, on reprend les bruitages. Les bruitages originales gaguesques, hein, les designs sont plutôt fidèles. Dès qu'ils peuvent placer des références partout, je crois que le nom du bowling, je crois que c'est le nom du mec qui a créé le personnage. Il y a des noms d'Anna et Barbara qui traînent un peu partout. Enfin, c'est bourré de trivia sur le film. D'ailleurs, c'est peut-être le seul argument du film. Voilà. Et c'est le triste, c'est ça. C'est que c'est un film qui du coup veut s'adresser aux fans, mais veut s'adresser aux gamins aussi. Mais du coup, il a le cul entre deux chaises et il sait pas trop où il va dans le mystère. Et que par exemple, qui est des Deus Ex Machina, comme tu disais, Marwan, mais dans l'enquête, mais ça, à la limite, dans un Scooby-Doo, c'est presque pas grave, parce que Scooby-Doo, c'est quand même le mec qui va s'appuyer comme par hasard sur le mécanisme caché du manoir. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste que c'est qu'on a envoyé bouler le mystère. On s'en fout, voilà. Mais qu'il affronte des vrais fantômes ou des vrais monstres, c'est arrivé. Il y a eu des séries où il a vraiment fait ça. Je me souviens, il avait ouvert un livre maudit et puis voilà, il devait aller chercher des trucs. Ouais. Non mais voilà, ça peut arriver, c'est possible. C'est juste que c'est juste que quand on ne sait pas où on va et quand on part comme ça dans tous les sens, bah du coup on a un résultat qui est un peu foutraque. Ils veulent balancer aussi plusieurs, ils veulent mélanger des licences peut-être pour lancer quelque chose derrière. On se dit mince.
Mais en fait, c'est ça le problème des productions ces dernières années, c'est que ils cherchent à viser un large public exprès, alors que les films qui ont touché les gens, c'est le bouche à oreille qui a fait tout le travail. C'est quelques personnes qui sont allées voir, qui sont allées dire à d'autres personnes, va voir ce film, il est génial, etc. Et la réputation, elle se bâtit comme ça, tu vois. Mais si tu prends en compte dans tes calculs que voilà, il faut un film pour enfants, mais en même temps, il faut jouer sur la corde nostalgique des fans pour les amener aussi, ben tu te retrouves avec un gros gloubi boulga qui finalement ne plaît à personne, quoi.
Mais parce qu'en plus on en parlait, on disait il y a Satanas et Diabolo dans le film quand même, et on se dit mais fait, quitte à faire un mélange, quitte à vouloir mélanger plein de licences et plein de trucs, la licence Satanas et Diabolo, les fous du volant, en fait ça s'adapte 20 fois plus qu'une enquête de Scooby-Doo. Alors Scooby-Doo, c'est le Captain America d'Anna et Barbara, donc à Barbera, je crois. Donc ouais, pourquoi pas. Mais
ils ont déjà fait des adaptations filmiques qui, elles sont ce qu'elles sont, mais elles se tiennent dans leur narration. Bah, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire juste une grande enquête d'une heure et demie, quoi, et ça passera très bien. Enfin, après, moi, qui décide de retirer totalement même les enquêtes, de retirer pas mal de gimmicks, et même de retirer toutes les références de Scooby-Doo, ce qu'ils auraient peut-être dû faire au final pour pas juste... flatter le fan là jusqu'à la moelle, ça me dérange pas tant que ça, à condition qu'ils proposent quelque chose. Ils disent on va prendre ces personnages là que t'aimes bien, on va en faire autre chose, mais on va en faire quelque chose qui sera cohérent, concret et sur lequel tu vas t'éclater, tu te diras bien merci les gars, quoi, aucun souci. Mais donc là du coup on est dans l'entre-deux, quoi. Donc ça ne rappelle pas Scooby-Doo suffisamment et ça ne propose pas autre chose suffisamment. Voilà.
Ce qui m'a embêté également, c'est le fait de traiter encore une fois le sujet du super-héros qui, je pense, commence à devenir usant. Et là encore une fois on parle de... c'est ça, on a trop mangé et puis là on en remange encore parce que les enfants forcément aiment les super-héros, donc les enfants vont adorer ça et ça c'est chiant.
Ça sentait la vente de jouets quand même, hein, parce que le vaisseau du héros, moi j'avais l'impression de voir un jouet en plastique.
Le kebab du début, je te jure, ils vont le vendre. Il y a un épisode dans Supernatural où Sam et Dean se retrouvent coincés dans un épisode de Scooby-Doo. Donc tout l'épisode est en animation. On a tous les personnages de Scooby-Doo et cet épisode est génial. Voilà. Donc, à défaut de se taper une heure et demie de conneries, autant voir 45 minutes d'un bon épisode si vous êtes nostalgique. Voilà. Et puis, il y a des démons et des fantômes. C'est chouette.
Scooby reste mystère, hein, du coup.
On a retiré le masque et il y avait juste un mec avec un sac avec écrit « nul » dessus. Voilà, le mystère résolu.
Et puis ensuite, j'ai re-enlevé le masque, il y avait marqué « vraiment nul ».
T'as retiré le masque et il y avait écrit « tout simplement nul ». D'ailleurs, quel est le film dont on parle après? Non, je te connais, je sais.
Mais non, on en a parlé juste avant.
Non, je sais, heureusement qu'on met pas Scooby en premier. Hein,
cela dit, tu n'as pas complètement tort, parce que le film qu'on met après, c'est le film coréen, qui n'est pas complètement bien. Un putain de placement de produit. Ce titre est un putain de placement de produit. Au début, je me suis dit que c'était une vanne facile et tout. Et puis non, c'est un putain de placement de produit. Lucky Strike, c'est... Je suis atterré. Bon, en même temps, le titre original, c'était Beasts that cling to the straw. Bon, autant dire que pour le marché français, c'était mort. Donc ouais, ok, bon, Lucky Strike, c'est bon, ça passe.
disons qu'ils ont bien trouvé pour une fois. Ils ont pas charcuté le titre.
Ouais, ben Lucky Strike, bon, et du coup, film coréen. Film thriller, drame arnaque. Des protagonistes un peu divers vont s'entretuer pour s'accaparer un sac Vuitton, un faux sac Vuitton bourré de pognon. Premier film de Kim Jong-un, alors rien à voir avec le dictateur nord-coréen.
C'est Kim Jong-un.
Non mais donc faut préciser, voilà. Moi ça m'a fait bizarre quand j'ai vu le... Non, voilà.
En Corée, les noms, les prénoms se répètent et ils sont répandus, donc il y a beaucoup de confusion chez les gens souvent, d'où l'utilité des numéros de sécu.
Un titre à fort succès, film coréen, qui fait les grosses affiches. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas tant de films qui sortent en ce moment, mais c'est vrai que je l'ai vu par exemple affiché en gros sur des cinémas pâtés, par exemple, normalement, Place de Clichy par exemple, affiché en gros. C'est un truc qu'on n'aurait pas imaginé avant Parasite, je pense. Et donc bon, par contre, c'est un film avec le mot « lucky » dedans. Du coup, est-ce qu'on le met dans la catégorie des « lucky » ou des « lucky numbers living » ou ce genre de choses?
Ah non, mais tu je sais pas du tout où tu vas avec ça là. Oh là là.
Non, moi je vois et ça se veut un Lucky Numbers 11, mais ça l'est pas.
Vous l'entendez, Yassa est avec nous.
Hello.
Et Thierry aussi.
Yo.
Par contre, Marwan s'est barré, c'est comme d'habitude, avec le sac Vuitton justement.
Sauf que lui, il n'y avait que 47 euros.
C'est déjà ça.
Ah, ça tombe bien, il était dans le casier numéro 47, le sac. Tout est
lié. Tu crois que c'est un hasard?
Ah ben, je sais pas.
Bref.
Rends l'argent, Marwan, rends l'argent.
Quelles sont vos impressions? Moi, je suis un peu en colère. Enfin, je suis déçu de ce film que j'attendais pas mal. Est-ce que vous êtes emporté? Est-ce que c'est un braquage? Est-ce que c'est un hold-up ou est-ce que c'est une grosse arnaque?
Ah ben moi, il m'a hold-upé de mon temps, ce film. C'est que j'ai beaucoup ri, je me suis amusée, mais le film n'était pas franchement intéressant. Enfin, l'intrigue est tarabiscotée, je crois que c'est le meilleur qualificatif. Et Il n'y a pas vraiment de suspense, en fait. Enfin, il y a un peu de gore, il y a un peu de trucs comme ça. Mais j'ai passé mon temps à rigoler, même quand c'était censé être sérieux. J'arrivais pas à prendre le film au sérieux, quoi. Je sais qu'il y avait des moments qui étaient faits pour faire rire l'audience, mais même quand c'était pas drôle, quand c'était pas censé être drôle, je rigolais parce que il y avait des trucs qui étaient beaucoup trop in your face, qui étaient beaucoup trop gros. Des créations de situations, des plans qui essayent de susciter le suspense, de nous mettre un petit peu au bord de notre siège, de se dire « Ah là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais en fait, pas du tout, parce que tu vois tout arriver. Tu vois absolument tout arriver. C'est-à-dire, au fur et à mesure que l'intrigue se déroule, tu dis « Ah oui, donc il va se passer ça, et il va se passer ça. » T'arrives pas après. Enfin, moi, j'ai pas pu prévoir tout jusqu'à la fin, mais à chaque fois qu'en fait on avançait, j'arrivais à prévoir les 2, 3, 4 scènes qui arrivaient après, et à la fin j'étais là, ok, pourquoi on aurait pu faire un, enfin, c'est, franchement, il y a l'intrigue avec le meurtre du mari, et quand l'autre femme arrive,
ouais, alors il y a une histoire de femme battue qui se débarrasse de son mari,
voilà. Et du coup, quand l'autre femme arrive, je me suis dit, on aurait pu faire un film uniquement sur ça. Ça aurait été génial.
C'est un des défauts de beaucoup de premiers films, et c'est encore un premier film, et on revoit ce défaut, c'est le défaut de « je mets tout ce que je veux mettre, parce que je ne suis pas sûr d'avoir un deuxième film, donc je mets tout ce que je veux mettre dans le film, et c'est presque un trop-plein. » Et c'est dommage. Enfin, c'est dommage, oui et non, mais là, du coup, là, il y en a, mais il y a de tout dans ce film. Du coup, on va te dire, oui, mais c'est un film d'arnaque et tout. Il y a tout le monde, tous ces personnages qui vont tourner autour du sac, donc ça permet de mettre plein d'histoires. Non, en fait, c'est trop. C'est du coup, ben, des histoires qui pourraient faire un film elles-mêmes, elles sont expédiées, elles sont pas forcément très bien bossées. Et pourtant, il y avait de quoi, il y avait matière. Mais on n'a pas le temps de s'attacher à ces personnages, on s'en fout ce qui leur arrive finalement. On tremble pas spécialement pour un personnage, parce qu'on dit que de toute façon, que ce soit lui ou un autre, il y a un autre pignouf qui va aller les embêter pour choper le sac de pognon. Donc,
d'autant que ça commence très, très, très lentement. C'est, franchement, le film est divisé en chapitres, donc à chaque fois qu'il y a un développement d'une autre intrigue, d'une sous-intrigue qui vient s'ajouter à l'intrigue principale, donc c'est en chapitres. Pour moi, ça a commencé au chapitre 3. Hein. Je suis désolée, mais les deux premiers chapitres, j'étais là genre, bon, ok, d'accord. C'est une exposition qui dure une vingtaine, voire une trentaine de minutes, quoi. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop long.
Déjà, c'est un film à chapitre, déjà. Déjà, c'est un film à chapitre, donc mauvais point.
Non, mais ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être intéressant, parce que j'avoue que l'idée est pas mal, parce qu'il y a énormément de protagonistes. Et je pense que c'est un bon moyen de ne pas se perdre, plus qu'on l'est déjà.
S'il a ressenti le besoin de faire du chapitrage, c'est que déjà, dans le scénario, c'était très confus, quoi. Voilà. Est-ce que toi, tu y es retrouvé, Thierry?
Moi, je dirais que ça démarre au cinquième chapitre, au moins.
Tu as bien profité des sièges du Luxor pendant les quatre premiers.
Voilà, c'est bien ce que je dis, ça démarre au chapitre 5. Et c'est le moment où je commence à me dire qu'il était temps que je m'intrigue, enfin, que je m'applique un peu dans le film. En fait, c'est un cinéma de faux personnages très archétypaux. Ça me fait énormément penser au gangster, le flic et l'assassin. Dans la mauvaise écriture de personnages qui sont juste définis par un trait de caractère, et à partir de là, tu te démerdes avec ça. Tu prends la nana, c'est elle va trahir les gens et elle va tuer les gens qui lui déplaisent. Et du coup, elle fait que ça. L'autre là, il parle pas et il est très méchant. Non, mais il parle pas.
Il mange les intestins.
Voilà, il parle pas, il est très méchant, il mange les intestins. En fait, c'est ça, c'est dès l'instant qu'on te dit lui méchant, lui gentil, lui rigolo, eh ben, ils vont faire que des trucs gentils, que des trucs méchants, que des trucs rigolos. Du coup, c'est vrai que c'est ça. C'est pas forcément les éléments qui sont prévisibles, en fait, mais tu sais de toute manière quelle va être l'implication de chaque personnage dans chaque élément qui te sera proposé. Du coup, tu t'en fous. Et c'est vrai que, oui, il y a des moments que t'es censé faire rire, mais qui sont plutôt gênants. Enfin, moi, je pense au passage de l'incendie. T'as quand même un mec qui est avec sa mère, qui est à moitié morte à côté de lui, la maison en feu, il la prend en pleurant, et t'as une musique de cartoon, quoi. J'ai pas très bien compris ça.
J'aimerais revenir sur la musique parce que parce que la musique, on a cette musique de gangster un peu à la Ocean's Eleven, tu vois, quand il y a le sac et ça, on commence à découvrir un petit peu ce qui se passe, etc. Et puis cette musique revient à des moments où le sac, ben, il change de main et tout. Et je l'ai senti vachement forcé, cette musique, en fait. C'est pour te dire, regardez, regardez, il est en train de se passer un truc cool, un truc d'arnaqueur, quoi. Alors que c'est pas ça du tout, quoi. Enfin, t'enlèves la musique, c'est nul. Les plans sont... Enfin, les plans sont plats, ils veulent pas dire... Enfin, c'est pas qu'ils veulent pas dire grand-chose, ils s'inscrivent dans le déroulement de l'intrigue. Mais c'est juste qu'en fait, ils sont pas attirants. Ils sont... Voilà, quoi. Et pour te forcer à ressentir quelque chose à ce moment-là, ben on te met cette musique entraînante, tu vois, de « Oh là là, attention, il va se passer des choses. » C'est, voilà, c'est le braquage du casino dans Ocean's Eleven, tu vois.
Ouais, sauf qu'il n'y a pas de plan, quoi. C'est, j'avais envie de dire presque, c'est, on dirait un scénario, un film des frères Coen qui aurait croisé Snatch, mais en prenant le moins bien des deux, quoi.
Ouais, ouais.
Donc Snatch.
Ah non!
Non, parce qu'il y a un montage un peu énervé, si tu veux.
Snatch est bien.
Là, on parlait juste en comparaison avec les frères Coen, c'est tout. Il y en a qui savent maîtriser tout leur cinéma et il y en a un qui a fait un film a priori correct de temps en temps.
Je crois que j'ai plus dormi devant Burn After Reading que devant Lucky Strike, quand même.
Burn After Reading est génial. Enfin, je suis triste.
Voilà, c'est un croisement de Burn After Reading et de Snatch.
J'ai pas vu Burn After Reading, donc je sais pas.
C'est pas du tout ça.
C'est des mecs qui suivent un truc sans trop savoir ce qu'ils font. Ben là, c'est un peu la même chose. Ils transportent un sac sans trop savoir ce qu'ils font. Voilà.
Mais voilà, en fait, ça me conforte dans le sentiment que j'ai eu à la fin du film. C'est que j'ai quand même passé un bon moment parce que j'ai rigolé, mais pas toujours quand il fallait, en fait.
Ouais, mais c'est ça, c'est qu'on rigole pas avec le film, en fait. C'est le problème, il est là.
On rit du film. J'ai ri du film, hein, vraiment, pour le coup. Disons que c'est une bonne première tentative, voilà.
Je comprends que ce film arrive chez nous, parce qu'il a eu un succès en Corée. Et de ce que j'ai vu sur IMDb, il a fait quand même plus de 4 millions de dollars de recettes en Corée, du Sud. Donc...
Déjà, je pense qu'il y a un truc qui joue là-dedans, c'est que l'intrigue se passe dans une ville de province, on va dire. Ça se passe pas à Séoul. Donc je pense que déjà c'est quelque chose qui peut attirer les gens. Et puis ça donne l'impression aux Coréens, je pense, d'avoir leur film d'arnaque, braquage. Donc forcément, bah ouais, allez, on va aller voir, quoi.
Ouais, alors faudra pas leur dire que c'est adapté d'un roman japonais, du coup.
Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. J'ai vu le nom de l'auteur, c'est vrai.
Ouais. Attaque chanceuse.
Les cigarettes ne se vendraient jamais avec ce nom-là.
Bon, alors, cela dit, je suis obligé de faire un message d'alerte. Fumez-tu, même dans les films. Loi 20, tout ça, voilà.
Mais en même temps, moi, ça me manque de voir des gens qui fument dans les films. Quand je revois des films des années 80-90 et que tu vois le gars qui est dans le resto en train de tirer des taffes et le cendrier qui déborde, et là, moi, ça me rappelle,
oui,
des trucs, quoi.
Oui, mais le mec te dit pas « j'adore, c'est Marlboro !» je kiffe fumer ma gauloise.
Nous, ça nous paraît bizarre, mais en Corée du Sud, c'est tout à fait normal de faire du placement de produits, que ce soit dans les films, dans les séries, des trucs comme ça. Non, c'est vraiment tout à fait...
Mais pas en Corée du Sud, il y a ça partout. C'est juste qu'il y en a qui le font plus ou moins subtilement.
Là, c'est grossier, là.
Pas du tout. Alors là, pour le coup, pas du tout.
Alors, après, je me souviens du McDo géant... dans Weathering With You. Le meilleur Big Mac de toute ma vie, c'était au Japon.
C'est-à-dire que même ici, il y a
des... dire qu'on ne le fait pas qu'en Corée.
Ouais. Mais c'est-à-dire qu'ici, les placements de produits, on sait que ça se fait, etc. Mais on préfère ne pas en parler. Alors que là-bas, en fait, dans les dramas, ils vont te poser la bouteille de bière parce qu'ils ont un partenariat avec Cass, par exemple. Ils vont te bosser la bouteille de bière et ils vont tourner bien, tu vois. Les filles qui se mettent des trucs sur le visage, ah ben, c'est la marque, elle est bien visible, etc. C'est,
Et là, les bières étaient bien tournées aussi. C'était de la Heat, Ice, je ne sais pas quoi. Oui, oui. Non, non, mais bien sûr. Mais il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de souci. Et dans les films Sony, c'est des téléphones Sony. Et oui, on est au courant.
Mais franchement, je pense que si on était parti sur le titre original du film et pas Lucky Strike, je pense que t'aurais peut-être même pas... Ou alors c'est pas dans le film que t'as réagi...
Disons que c'est dans le scénario, c'est un élément quand même. Sur lequel il appuie, vraiment.
Ouais, bah franchement, si tu me l'avais pas fait remarquer, j'aurais même pas tilté, en fait, tu vois. Je me suis dit, ouais, voilà, c'est un placement de produit. Enfin, moi, ça me fait absolument rien.
C'est quand même... j'avais envie de insérer le nom de la cigarette. Du coup, je suis sorti de la voiture et ça m'a sauvé la vie. Merci, insérer le nom de la cigarette.
Ça aura au moins le mérite d'avoir aidé les distributeurs français à trouver le titre.
Fumer sauve des vies.
Bon. Non mais j'ai spoilé, à la fin ça tue, voilà. De toute façon, je m'en fous. De toute façon, tout le monde meurt. De toute façon, tout le monde meurt, donc je s'en fous. Vous savez que tant que le film n'est pas fini, il fait ses 1h48, vous savez que tant qu'il y a quelqu'un de debout, ça va pas se terminer.
J'ai vraiment passé un bon moment parce que ça m'a pas paru aussi long.
Moi, je peux te dire que la fin, comme on voyait tout venir, moi ça m'a paru interminable. Comme cette critique de film d'ailleurs que nous allons achever. Voilà. Il faut rattraper Marwan et son portefeuille et son faux portefeuille 8 ans. On va finir cette semaine et on va se projeter sur la semaine suivante. L'été approche, on part en vacances tout de suite.
Ça va mon chéri ?
Ouais.
Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu lui as fait ?
Maman, ouais, ça chavirait, c'est tout, c'est rien.
Un bon bain chaud, c'est tout ce qu'il te faut. Allez !
Avec ta mère, vous faites ça à tous les mecs qui chavirent. Tu sais que c'est ma première fois. Tu te détends, tu résistes jamais au mouvement. Tu te laisses aller.
Plaisir à voir tous les deux.
Salut beau mec. Toi et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. On se connaît que depuis ce matin. Hein. Pourquoi perdre du temps? On est tous mortels.
Allez, on est à Saint-Germain-des-Prés, on profite. On sort d'une petite avant-première. Très discrète, une projo presse même.
Ce qui est assez marrant parce que quand on va sortir ça, le film sera quasiment sorti, donc ce sera plus vraiment un événement quoi.
Alors oui, il y a un embargo jusqu'au 10 juillet.
Et en plus, le 10 est un samedi, donc oui. Au jour où vous nous écoutez, l'embargo vient d'être levé. C'est pas fantastique ça?
Voilà, donc en fait, voilà. Et ce qui veut dire que le film sort la semaine prochaine.
Non, mais en vrai, c'est nous qui demandons à chaque fois qu'on fait une projo presse qu'ils lèvent l'embargo les samedis juste avant pour nous, parce que sinon c'est jusqu'à la veille, mais vu qu'ils nous kiffent.
En tout cas, il y en a un qui nous kiffe pour de vrai, c'est Gabin.
Salut. C'est vrai, je vous adore.
Ah là, enfin, on peut te revoir après le confinement, donc ça fait plaisir.
C'est la première fois, toi Thomas, d'ailleurs, que tu enregistres en direct avec Gabin, c'est beau.
Oui, d'ailleurs, oui, c'est ça. C'est une rencontre au sommet.
Non, c'est vrai qu'en plus, on a enregistré pendant le confinement, mais c'était pas pareil. C'était pas vrai. C'était pas du vrai de vrai. Voilà, et voilà. Triste. C'était très triste.
Exactement. Et là, par contre, on est tout joyeux. C'est l'été. Et on en profite. On va même faire un été nostalgie, puisqu'on revient dans les années 80. Été 85 de François Ozon, film qu'on aurait dû voir à Cannes, mais comme il n'y avait pas Cannes, eh ben, voilà.
Oh, mais bon, la sélection est toujours réelle, voilà. On va voter.
Après 85, c'est 84, monsieur. Souviens-toi qu'il a juste changé le titre pour une chanson.
Ben oui, ben voilà.
Robert Smith, il est chiant.
Enfin, remarque, sinon ça aurait été anachronique, donc tant mieux.
Un côté. Ça aurait gâché tout le film. Et oui.
Ah, il y aurait toujours quelqu'un qui aurait posé la question.
Mais pourquoi vous avez mis un morceau de 85 dans un film de 84? Oh, c'est bon.
Été 85 d'après le livre d'Aidan Chambers, La danse du coucou, qui a été rebaptisé Été 85 pour les éditions. Ouais. Montre-moi sur la tranche, qu'est-ce qu'il y a marqué? Été 85, ça a été rebaptisé Été 85. Bon, ben voilà. C'est un livre que le réal avait lu pour ses 17 ans.
Et ouais, c'est beau.
En 85, c'est beau. Et donc, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte une histoire d'adolescent. Merveilleux. Les jeunes Alexis et David. Alexis, alors qu'il fait un tour d'optimiste, c'est ça, hein, c'est ces petits trucs-là. C'est un peu plus gros qu'un optimiste. Bon, bref. Alexis fait un tour en voile. Il chavire. Et il chavire dans plusieurs sens du terme, puisque...
Quand ton bateau s'appelle Tape-cul, forcément, à un moment, ça se retourne. Hein.
C'est ça, on y a pensé, ouais, c'est ça. Et il est sauvé par David, et ils vont devenir très amis, très très amis, même plus que ça, et même son été va devenir inoubliable.
C'est son bon ami, très simplement. J'adore cette expression, tu sais, je sais pas pourquoi. Toujours les parents ou les vieux, quand tu es une personne homosexuelle, on va dire « Alors ton ami, il est comment ?» Mais vous pouvez dire petit copain ou petit ami comme tout le monde en fait. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était la parenthèse vocabulaire.
Ils vont devenir bons amis, petits amis, très petits amis.
T'as l'impression que c'est un truc de SF sur le rétrécissement quoi. Et à la fois ils sont des mini amis.
Non, voilà. J'ai rétréci les gays.
Tout se passe bien, ils sont super complices jusqu'à ce que David. Aïe, puis non, on va pas raconter la suite, en gros, bon, voilà, c'est un été amoureux entre deux jeunes garçons. qui va marquer la vie d'Alexis à tout jamais.
Faut pas t'en raconter la suite. Après, en fait, le film est basé sur une intrigue inconsciente. Enfin, sur une intrigue, comment dire... Je vais trouver mon mot. Hein.
Psychologie.
Non, je pensais pas. Oui, évidemment, mais je pensais pas exactement à ça. Sur une intrigue incomplète. Voilà, avec dès le début, en fait, on nous annonce qu'Alexis a fait quelque chose, qu'il est en train de potentiellement payer de manière, par la justice, ce qu'il a fait, mais on ne sait pas exactement quoi. Et il parle d'une situation mortuaire concernant son ami. Et du coup, voilà. Donc, on sait que voilà, ça va évoluer dans ce sens-là, mais on ne sait pas comment. Et ça, c'est intéressant, c'est que justement, pendant tout le film, on se demande comment ça va être amené. Et il n'y a aucun moment où on se dit qu'on connaît les clés, en fait, du dénouement. C'est ça que j'ai trouvé assez intéressant déjà dans le film.
Non, c'est ça. C'est que vraiment, dès le départ, on nous dit c'est passé quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Et on va quand même réussir à être berné tout le long. C'est ça qui est. C'est ce pourquoi le film est très bien construit. Et ce qu'a dit Thierry, c'est que moi, pendant tout le film, je me suis dit, il l'a tué, ou je ne sais pas, il s'est passé quelque chose de terrible. Et finalement, on est toujours surpris. Peu importe ce qui se passe, on sera surpris pendant le film.
Alors. C'est vrai que c'est un film, j'ai l'impression, en deux parties. Alors certes, on nous tease, hein, on nous appâte avec cette histoire de procès, cette histoire de mort, cette histoire... la mort obsède Alexis. Alexis joué qui est joué par Félix Lefebvre, que vous aviez peut-être vu dans L'heure de la sortie, par exemple.
Oui.
Bah moi non, je ne l'ai pas encore vu.
On nous tease, mais ensuite on arrive sur une première partie qui est une partie vacances d'été, la relation qu'il noue avec David. David, qui est joué par Benjamin Voisin, que vous avez peut-être vu dans La dernière vie de Simon ou dans Un vrai bonhomme.
Oui.
Non.
Oh. C'est une critique onomatopée ce soir.
On va faire pareil pour Isabelle Nanty et les tuches ou comment ça se passe?
Isabelle Nanty qui est aussi là, qui joue la mère d'Alex. Exactement. Et alors, c'est ça, moi j'ai bien aimé justement cette ambiance années 80, c'est l'été, à la plage, on s'amuse, il y a les mois adolescents, il y a une grosse tension aussi. Moi à un moment j'avais l'impression, il y avait des sous-entendus partout, tu parles le nom du bateau, le tape-cul, il a chaviré, il répète 20 fois qu'il a chaviré, on a compris. Il y a des allusions partout, il y a la mère qui est très très intrusive. Alors,
la mère de David. Hein.
La mère de David qui est jouée par Valeria Bruni-Tedeschi. Voilà, et des situations, moi je me suis dit, en fait, si je fais la version porno de ce film, je garde tout comme ça, je rajoute juste les scènes de cul en fait. Parce que les dialogues sont très très marqués.
Très explicit content.
Non, moi ce qui m'a frappé, mais au moins on remarque directement dans la chambre d'Alexis aussi. Certains éléments qui nous montrent évidemment son orientation. Voilà, l'énorme photo de Freddie Mercury qui est un petit peu floutée, mais si on est un petit peu intelligent, on le reconnaît. Le poster de Chercher le garçon. Voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose. Et ce que j'apprécie aussi dans le film, c'est tout le questionnement avec la famille, justement. Donc, on parlait de la mère, de David Valeria Bruni-Tedeschi, ce qui est tout le contraire d'Isabelle Nanty, donc qui est la mère d'Alexis, où là, on est constamment dans la retenue, on sent qu'entre Alexis et sa famille, c'est plus compliqué, on a du mal à se dire les choses, mais même sans se dire les choses, ils se comprennent, et c'est ça qui est aussi très beau dans le film. Je trouve qu'Isabelle Nanty, qu'on a plutôt l'habitude de voir dans les comédies, du coup, donc on va pas dire les tuches, évidemment, et là, ça fait du bien de la voir dans un film dramatique, de la sortir de ces rôles dont on a l'habitude de la voir, et je trouve que François Ozon a vraiment bien fait de la caster dans ce rôle-là.
Mais dans le justement Isabelle Nanty, enfin, moi j'ai trouvé beaucoup d'éléments du coup, c'est normal que ce soit aussi un film somme du cinéma de Ozon. On l'a vu en plus en entrevue derrière, donc du coup il a confirmé aussi qu'il y avait certaines choses qu'on retrouvait. Moi j'ai beaucoup pensé à Une nouvelle amie. Dans le côté découverte de soi, découverte du désir, découverte de nouvelles choses que l'on peut considérer comme non conventionnelles et que du coup on a souvent refusé de vivre, et là tout à coup on s'offre totalement à ça. Et dans l'un des côtés c'était le travestissement, et là c'est aussi le désir amoureux, homosexuel, qui est très très bien transcrit. Et l'écriture m'a fait penser aussi au personnage de Josiane Balasko dans Grâce à Dieu. En fait, je trouve qu'il a tendance à aimer les mamans qui sont très pudiques, en fait, qui sont très secrètes, mais qui savent les choses. Et c'est ce qu'on avait justement, et qui finissent par intervenir. Josiane Balasko, c'est exactement ça, c'est la maman qui est là, qui va aider son fils et qui va finir par intervenir concrètement. Et là, c'est un petit peu pareil, en fait, où à un moment, elle lui donne des clés en lui disant « ce que tu vis, je connais d'autres personnes qui l'ont vécu, et je veux pas que ça se reproduise pour toi de cette manière-là. » Et du coup, il y a une complicité qui naît entre eux, même si elle n'est pas directe, et c'est très beau. Et en fait, moi, c'est de la force de ce film que j'ai beaucoup aimé et la force même de la relation entre les deux garçons. Ils ont cité Call Me By Your Name, comme, pas comme étant une référence, mais...
C'est quelqu'un du public.
C'est quelqu'un du public qui a cité ça et qui demandait s'il s'en était inspiré. Les deux acteurs disaient que potentiellement ça pouvait être une influence. Je vais pas comparer les deux films parce que c'est pas du tout la même chose, mais c'est vrai que moi, Call Me By Your Name, la relation entre les deux, j'y croyais un petit peu moins. Je la trouvais forte par l'image, moins forte par leur alchimie. Là, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'alchimie. C'était électrique, quoi. Je veux dire, j'ai vu des amants, quoi, et c'était super beau. J'ai pas vu des gens qui étaient dans la retenue. Et je trouvais ça très beau.
Et sans pour autant en montrer énormément, ce qui est la grande différence par rapport à Call Me By Your Name, qui pour moi va être la comparaison inévitable dès le départ, dès la bande-annonce. Tout le monde disait, bah tiens, Ozon se la joue Call Me By Your Name ou un peu Dolan. Alors que, bon, je pense que Ozon, voilà, l'homosexualité, je pense pas que ça soit quelque chose de nouveau pour lui non plus. Et il est un petit peu, voilà, il est un petit peu depuis plus longtemps sur le marché, on va dire, du cinéma. Mais aussi, il en parle en disant que l'année 85, c'est pas par hasard, c'est pas parce que lui avait 17 ans à ce moment-là, c'est aussi justement parce que c'était les derniers moments de liberté avant l'éclosion, du moins du sida, des premières victimes, enfin de toutes les victimes qui ont commencé à se faire connaître. Donc pour lui, c'est vraiment voilà, ce moment, cette parenthèse de liberté qui arrive avant le cataclysme. Quoi.
C'est le temps des dernières insouciances.
Moi, je voulais juste dire qu'ils étaient très beaux, en fait, tous les deux. Ils étaient magnifiques, en fait. Oui, moi, je les ai trouvés. Mais même moi, qui ne suis pas porté spécialement là-dessus, même moi, j'ai chaviré.
À un moment, François Ozon dit un truc très juste, enfin dans l'entrevue qu'il y a eu derrière, du coup, il ne faut pas qu'on en dévoile trop, c'est qu'il dit que justement, c'est des codes totalement universels et que l'amour qu'on a vu, c'est juste de l'amour, en fait. Ouais. Peu importe que ce soit entre un homme et un homme et une femme, parce que c'était pas ça l'important. Chose à laquelle j'ai dit à Gabin que ça devrait jamais être important. L'essentiel, c'est qu'il y ait de l'amour, quel qu'il soit, et que les gens le vivent. Et c'est vrai que c'est ça qu'on a vu, en fait. On a vu deux gens qui s'aimaient. Et je pense que quel que soit le rapport qu'on a à ça, même si par exemple on peut être un peu réfractaire par notre éducation, par les ressentis qu'on peut avoir, enfin, les pressentiments qu'on peut avoir, là on verra deux gens et on dit, ah ouais. Quoi qu'on en ait pensé, ces deux-là, ils se sont aimés, ça se voyait. Et c'était beau à voir.
Donc convaincu aussi par les deux jeunes acteurs
C'est vraiment l'alchimie se ressent dès le départ. Et ce qu'ils vivent, effectivement, ça peut être vécu par n'importe quel couple, que ce soit un garçon, une fille, deux filles, deux garçons. C'est vraiment ce cheminement. Voilà, on se découvre, c'est les premières fois pour tout le monde. C'est les premiers... on va au cinéma, on se fréquente, etc. Et il y a les disputes aussi, les premières disputes. C'est vraiment ce par quoi on passe tous. Donc c'est ce qui rend le film aussi universel et ce pourquoi on s'y attache vraiment pleinement.
Une belle histoire d'amour pour cet été. Une romance d'été comme on les aime. On conseille du coup fortement. Ça sort la semaine prochaine au moment où on enregistre.
Ça sort le mardi 14 juillet. Parce que vu que c'est un jour férié, ils font plus d'entrées.
Voilà. C'est pas nous, c'est François Ozon qui l'a dit.
Il y a beaucoup de films qui sortent le 14 juillet. Ça va être une grosse émission. Je pense qu'on fait bien de l'enregistrer en avance celui-là.
Aussi, on aimerait bien, parce que la question a été posée pendant le film, vu que le film a été tourné en pellicule, le projectionniste de la séance a demandé à François Ozon, est-ce que vous pourriez sortir une copie pellicule du film ? Ce à quoi il a répondu, bah ça coûte 10 000 balles, donc si quelqu'un avait envie de diffuser cette copie en 60 mm, s'il vous plaît, faites-le. Merci.
Le compte de Gabin est donné en description. On dira plus tard que c'était du détournement.
Non, moi, par contre, j'ai pas d'argent.
10 000 euros. 10 000 euros sur le compte de Gabin et promis, il vous chope la péloche.
On fait une cagnotte litchi.
Voilà. Une cagnotte litchi pour Diafana. Voilà, on leur envoie tout notre soutien. Et puis, on espère pour eux que le film marchera, que les gens reviendront au cinéma, même si c'est un peu compliqué en ce moment. Toujours.
Parce que c'est dommage, oui, tu dis en pellicule, mais il faut préciser, c'est quand même tourné en Super 16. Il y a un grain de l'image. C'est pour ça aussi qu'il a demandé à tourner comme ça. C'est parce qu'on a une très belle image qui replonge, qui contribue à te faire plonger dans l'époque.
En plus, c'est ce qu'il disait, ce qui est assez fou, parce que quand il avait 17 ans, il était sur ses premiers courts-métrages qui tournaient à la Super 16. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un côté, voilà...
Nostalgie
catalyse de justement retourner à cet amour-là, de ce grain-là, de se dire quand j'avais 17 ans, j'ai lu ce bouquin, ça m'a fait cet effet-là, et je tournais mes films comme ça. Donc c'est une façon à lui de revenir vraiment à ses 17 ans, quoi, totalement. Donc c'est très personnel, en fait, comme film. Comme souvent chez Ozon, hein, mais là, particulièrement, quoi.
Après, c'est aussi ce qu'il disait, c'est que contrairement au numérique, maintenant le numérique fait que l'image est nette, constamment nette, et on y croirait moins. On y croirait moins si on nous tournait un film en numérique qui se passe dans les années 85, enfin dans les années 80. Là, il nous dit on est pleinement dans les films d'époque, et ça peut même sembler bizarre maintenant de regarder un film comme ça aujourd'hui quand on est habitué au numérique. Et c'est vrai, ça fait un peu bizarre, mais ça fait du bien aussi de revenir à ça.
Ouais, puis je trouve que ça correspond aussi à ce sentiment amoureux, on se cherche un peu, ce flou qui existe, on ne sait pas trop. Moi, je trouve que ça colle d'autant plus.
Qu'est-ce que c'est beau quand tu parles.
Ouais.
J'ai mis ma tête dans le micro.
C'est pour ça que je porte un casque, c'est pour m'entendre. C'est pour m'écouter parler.
Nous ne comptons pas.
Il faut savoir qu'en fait, quand il fait son montage, il y a des heures de rush de lui tout seul. Hein,
ah, je me parle.
En fait, il va nous couper intégralement et ne garder que ses phrases.
Il va répéter tout ce qu'on a dit, mais avec sa voix.
Et vous savez que les émissions sont normalement deux fois plus longues. Bien, alors pour que l'émission ne soit pas deux fois plus longue, on va s'arrêter là.
Eh bien, merci, c'était génial.
Merci, Gabin. De cinéma...
Gabin de Cinématrack et Silence Motion Reaction.
Je sais toujours que Thierry adore quand je dis oui, bonsoir, donc je l'avais pas encore dit, donc bonsoir. Voilà.
Mais alors le problème c'est que là on a tenté de mettre une running joke, mais du coup ça va.
Mais en fait personne n'a compris.
J'ai fait tout ce que j'ai pu, hein, mais tu vois ça marche pas toujours. Alors, visiblement, une personne absente ce soir et son rire ça marche mieux.
Sans Yassa c'est plus compliqué. C'est la fin de cette semaine. Nous vous avons parlé de Tout Simplement Noir, Scooby, Lucky Strike, Été 85, qui sort la semaine prochaine. Mais c'est pas fini, vous savez qu'on ne part jamais sans faire les recos. Je suis avec l'équipe au complet, oui, parce qu'on enregistre ça au milieu de la semaine, voilà. Et donc Marwan est là. Marwan ne vient que pour Scooby et l'intro et la conclusion. Voilà. C'est dans son contrat, il a ses exigences de star, que voulez-vous.
Voilà. Non mais c'est ça, hein. J'ai signé un contrat l'année dernière avec Clac. Allez voir les films mauvais qui sont proches ou qui sont de la comédie. Et voilà, et puis en juger avec eux.
Et du coup, est-ce que tu as des recos, des rattrapages cette semaine?
C'est Garçon d'honneur d'Ang Lee, que j'ai découvert de ça il y a 3 jours sur Mubi. Et c'est une véritable merveille, c'est sa période avant les gros films à succès comme... Brokeback Mountains ou Le Tzidpi. Et c'est touchant dans sa façon de traiter la double identité en 93, de l'homosexualité à cette époque-là. Et je trouve ça vraiment merveilleux dans la mesure où il a quand même déjà une patte, une réalisation qui est déjà, je trouve, assez personnelle. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit aux États-Unis qui est gay, il est en couple et en fait ses parents veulent à tout prix, ils ne savent pas ça, et ils veulent à tout prix qu'il se marie avec une femme, et lui il suit un peu leur délire, il remplit des papiers pour les agences matrimoniales et puis un jour il décide d'aider une amie qui n'a pas la carte verte, et il décide de faire passer ça pour un mariage entre eux, et puis les parents viennent, et puis il y a toute cette notion, toute l'histoire qui se développe sur cacher son homosexualité, en même temps mettre en exergue la double identité, l'identité un peu américaine que le personnage a eue en vivant là-bas, et puis en affrontant le côté traditionnel de ses parents. Et c'est vraiment, ça arrive à être drôle et à être très émouvant à la fois, et c'est d'une justesse qu'on ne retrouve plus forcément dans ce qu'il a pu faire de plus grand, quoi. Voilà.
Merci. Qui se lance ensuite? Yassa.
Pour cette semaine, j'ai envie de recommander une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps de Nota Bene, dans laquelle il revient sur un logiciel qui permet en fait d'explorer un petit peu le voyage durant la période de la Rome antique. Et un peu plus récente aussi. C'est un logiciel en fait qui est assez avancé, où il y a beaucoup beaucoup de paramètres à prendre en compte. L'état des routes à l'époque, les points de chute, les auberges, etc. La monnaie, voir combien ça coûte et des choses comme ça. Et c'est hyper fascinant de pouvoir mettre en perspective, de pouvoir en fait quantifier en fait ce genre de choses. C'est pas forcément une chose à laquelle on pense quotidiennement, mais c'est génial de pouvoir le faire et de se rendre compte de ce qu'était le voyage à cette époque-là.
C'est le MAPI de l'Empire romain.
C'est ça, c'est exactement ça. Et le logiciel s'appelle Orbis, qui a été développé par un historien de l'université de Stanford en collaboration avec des experts en informatique et en récolte de data. Enfin, je crois que c'est ça. Donc voilà.
Merci à ça.
Alors Marocco, c'est un film que j'ai vu avec Marwan au Luxor, Il y a quelques jours de ça, on est allé.
Le Caire ne répond plus, OSS.
Oui. Et ça s'appelle Babyface. C'est un film pré-code AIDS. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le code AIDS, c'est un code en fait qui avait été écrit par les États-Unis, par des syndicats, des propriétés de cinéastes, pour auto-censurer leurs films. Parce qu'ils savaient justement qu'en plus, avec tous les problèmes qu'ils allaient avoir, vu tous les débats qu'ils mettaient dans leurs films, ils allaient avoir des soucis. Donc, ils avaient préétabli un code en fait qui allait servir justement à faire ça. Je me trompe pas.
En fait, c'est davantage parce qu'en gros, Hollywood, c'était vraiment le lieu de la luxure, même par excellence, et commençait à se faire, on va dire, étiqueter par les strikers, bon, c'est totalement ça, par les comités, par les groupes religieux ou même pas. Et c'est les studios eux-mêmes qui ont décidé avec des gouverneurs de faire ces lois-là pour essayer de recadrer ces gens-là. Et en fait, ça part vraiment du comportement parce que par exemple, il y a eu un acteur burlesque qui a, alors excusez-moi pour les termes, mais qui a lors d'une soirée très arrosée, qui a violé et puis a tué une femme. Il y a eu des meurtres, il y a eu beaucoup de drogues.
Fatih Arbuckle.
C'est ça, c'est Fatih Arbuckle. Et en fait, c'est tout ça. Donc, pour essayer de avoir le minimum de contrôle, ils ont réussi à arranger le coup avec l'État et puis surtout, ICE, pour essayer de faire cette loi-là. Ça part de là. Donc, c'est de contrôler de l'intérieur pour éviter de se faire censurer, mais de l'extérieur.
Donc parce que mec a fait un truc dans la vraie vie, on censure les films.
Plein de gens. Il y a eu plein de meurtres, il y a eu plein d'excès, de drogue et d'alcool.
Du coup, c'est pas les films qui rendent violents, c'est faire des films qui rendent violents.
C'est ça. Et donc voilà. Donc
il codait pas des jeux vidéo aussi des fois, non?
Du coup, dans les dernières années, avant que le code soit appliqué, en fait, ils se sont lâchés encore plus que ce qu'ils faisaient avant. Et du coup, voilà, il y a cette espèce de film qu'on appelle les films pre-code AIDS qui sont dans les dernières années avant que le code soit appliqué et qui se permettent les derniers excès avant de devoir justement s'auto-censurer pour pouvoir passer tous ces carcans.
Et pourquoi nous parlez-nous, vous, de ce film alors? Dis donc, Babyface, pourquoi sort-il en salle?
Parce qu'en ce moment, ils font un truc, voilà, ils font une rétrospective qui s'appelle le Forbidden Hollywood et qui justement regroupe, je crois que c'est une quinzaine de films pre-code AIDS. Voilà, et Babyface, du coup, on l'a vu dans ce cadre-là et c'était vachement chouette. Donc, c'est réalisé par Alfred E. Green. C'est un film qui est totalement dominé, du coup, par son actrice principale, Barbara Stanwyck. Et ce qui est, voilà, enfin, donc du coup, ça va raconter l'histoire d'une nana qui vit dans un, enfin, qui grandit dans un bar clandestin avec son père. Son père qui vend ses services, on va dire clairement, sans vraiment y réfléchir, c'est pas très sympa de la part de papa. Et du coup, voilà, enfin, elle finit par se casser parce qu'elle en a marre et elle se rend compte que justement, avec ses charmes, elle peut faire absolument ce qu'elle veut aux hommes. Donc, du coup, ça va être une nana qui va employer ses charmes auprès des hommes constamment. Pour absolument tout obtenir, que ce soit le mariage, le gain, la sécurité, le toit, le logis, enfin tout. Et c'est assez fort parce qu'il y a des sous-entendus tout le temps qui sont médits ouvertement. En fait, il n'y a aucune chasteté dans les dialogues, même dans les actes. Il y a des scènes, enfin, il n'y a absolument pas besoin de chercher pour les voir. C'est très franc comme cinéma et c'est très fun à regarder. Et ce qui va ramener vite fait à ma deuxième reco. Mais
on est très très long sur celle-là.
Elle est liée. Non, mais elle est liée. C'est juste que la soirée qu'on a fait était dans le cadre de la sortie du nouveau Revue et Corrigée sur le sexe au cinéma. Et c'est très bien. Voilà, c'est une très bonne revue. C'est leur 8e, si je ne me trompe pas. Et c'était super chouette à lire. Comme toujours, Revue et Corrigée, c'est très bien.
Voilà. Voilà, et donc le Forbidden Hollywood, alors ils ont commencé à les sortir la semaine dernière, il y a une dizaine de films. Alors c'est pas forcément facile à trouver. Il faut éplucher les programmes de salles de ciné pour tomber dessus quand même.
Et toi Thomas, c'est quoi ta reco?
Ah, moi ma reco. Vous avez pris beaucoup de temps, du coup, je sais pas. J'ai pas de reco ciné cette semaine, non, j'aimerais beaucoup, mais non, parce que j'ai lu des comics, je vous l'ai dit la semaine dernière, donc voilà. Mais non, si, une reco télé. Mais voilà, j'ai découvert avec 12 ans de retard RuPaul, voilà. Voilà, ma copine m'a converti à RuPaul Drag Race, donc voilà. Donc je vois de la télé-réalité avec des drag queens, voilà. Un concours de drag queens en télé-réalité.
Voilà. Une saison tous ensemble et on fera un petit claque sur le côté.
C'est vrai que
En vrai,
Thierry avait un corset et une perruque, je veux bien. Ouais.
D'accord, bah, comme ça je suis arrêté d'être Vin Diesel. Bref.
En quoi c'est excellent? Ben c'est, on a tous les excès d'une télé-réalité avec des bitcheries. Alors oui, c'est de la bitcherie parce qu'elles se traitent toutes bitch entre elles. Il y a des costumes totalement délirants. On a des personnages, et là pour le coup, les drag queens sont des personnages. Ce sont des queens, mais vraiment très exubérants avec beaucoup de personnalité. Et on a RuPaul qui aussi est un personnage qui est une drag queen connue aux États-Unis et qui est un peu la mama un peu de tout ça. Il y a une certaine bienveillance et en même temps, ce sont des pestes. Voilà. Et puis il y a la diversité de ce genre de concours, donc voilà. Et puis le fameux, chaque épisode se finit par un concours de playback, un duel de playback. Donc RuPaul Drag Race, mais
et sous le masque il y a Ron Paul, le gouverneur de je sais plus quel état.
Ça serait un sacré épisode de Scooby-Doo. Donc c'est juste ça. Et ben oui, sinon il y avait Forbidden Hollywood aussi avec sa dizaine de films, mais comme vous en avez parlé, voilà.
Inception au cinéma. Voilà, c'était tout pour moi.
C'est ça. Non, la semaine prochaine, ça va être chargé parce qu'il n'y a pas un jour de sortie, mais il y a deux jours de sortie. 14 et 15 juillet.
C'est ça.
Dire 14 sorties, je vais putain.
Ben, je crois qu'on n'est pas loin. J'ai pas compté, mais je crois qu'on n'est pas loin. Ça va être costaud. Déjà, il y a 5 ou 6 sorties le 14. Déjà.
Le 14 juillet.
Avec le là, par contre, avec le retour des comédies fond bleu, titre jaune.
Ça m'avait manqué.
Donc ça, c'est un sacré teaser pour la semaine prochaine, je ne vais pas plus loin. Merci Yassa.
Merci Thomas.
Merci Marwan.
Merci à toi.
Merci Thierry. Ah, mais de rien, c'est toujours un plaisir de venir accompagner les petits animateurs qui ont besoin de grandes voix pour parler des films. Je suis en train de faire... Mais tu sais qu'en plus, Paris, je suis pas forcément fan de ce qu'il fait, donc je pourrais l'imiter très péjorativement.
C'était certain les machos. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour une petite sélection parmi la déferlante de films. La semaine prochaine. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, @claacpodcast, C-L-A-A-C podcast. Commentez, partagez l'épisode. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et ce que vous avez pensé de ces films.
Clouc podcast.
N'oubliez pas, partagez et écoutez Clac, c'est bon pour la santé.
Oui. C'est vrai. 5 épisodes de claques par jour.
Coronavirus.
Vous pouvez écouter d'ailleurs les épisodes sur toutes les bonnes applications de podcast. Regardez la description, il y a déjà une bonne liste. Ou alors l'application sur laquelle vous l'écoutez. Abonnez-vous tout simplement pour retrouver l'épisode dès sa sortie. À la semaine prochaine.
Et des bisous.
Bisous, bisous, bisous.
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 Et notre ami fidèle Marwan.
Salut.
C'est par rapport à Scooby tout ça.
Ok. Salut. Ah merde.
Non. Non, non, non.
Marwan a vomi dans le micro.
Bon, vous remarquerez qu'on n'est pas super doué en imitation, donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, nouvelle semaine de cinéma avec de magnifiques films à l'affiche. On commencera par...
Simplement Noir. Non. Tout simplement. Ah, tout simplement... Oh putain.
Une ligne de dialogue.
C'est pour ça que je suis pas actrice. Tout Simplement Noir.
Suivi de...
Scooby.
Et...
Strike Lucky. Oh.
Presque.
Lucky Strike.
Non mais sérieux, le motif du sac, j'ai des babouches avec le même motif qu'on m'a ramené du bled. Je te jure.
C'est génial ce truc de contrefaçon ou même les marques de luxe, tu vois, qui mettent leur nom, leur logo sur plein de trucs. Je suis désolée, mais enfin, je critique pas les goûts et les couleurs, hein, mais moi je le trouve moche le logo Louis Vuitton sur.
C'est le motif, tu sais, celui qu'on voit sur les fausses casquettes, les fausses bananes et les faux trucs.
Mais je crois que ça a tellement été, démocratisé, popularisé que tout le monde en porte, que du coup, ça a plus rien d'exceptionnel, quoi.
C'est le problème des contrefaçons. C'est ça.
Comme les ceintures chez Chanel avec le petit CC là.
Chanel.
Chanel.
Du coup, on conseillera le film Contrefaçon avec Jean-Claude Van Damme. Je sais plus le titre exact. Je vais le chercher pour les recos, tiens, voilà.
Piège à Hong Kong.
Ah, ça c'est le titre français, voilà, c'est ça. Bien vu.
Voilà.
Heureusement que Thierry est là.
J'aime beaucoup ce film de Tsoyark. Voilà. Non, je déconne, hein, c'est il aurait jamais dû le faire, mais bon, malheureusement, des fois, tu fais pas ce que tu veux dans la vie.
Ouais, mais il est pas. En fait, il est pas si mauvais que ça. Il est mauvais, mais.
Ah non, mais c'est une insulte à tout ce qu'on a. Enfin, tout ce que les producteurs ont demandé à Tsoyark de faire, il l'a montré à l'extrême pour les faire chier. Donc, oui, c'est l'idée derrière est géniale. Voilà.
Artistiquement, c'est intéressant. Enfin, il y a quelque chose à. Bon, Karim Debbache a fait une très belle vidéo dessus, donc je n'en parlerai pas. Je n'en dirai pas plus. Allez voir la vidéo. Voilà. Ça sera beaucoup mieux que tout ce que je pourrais dire sur ce film.
Juste dedans, il y a un super chauve.
Pour une fois.
Si on pouvait m'appeler Jérémy Morvan et arrêter de m'appeler Vin Diesel, je serais heureux.
Bon, on a parlé de Lucky Number Slaving, t'aurais pu saisir Bruce Willis, mais c'est raté. Ouais. Et ouais, dommage, c'est perdu.
C'est parce que Bruce Willis, j'en ai l'image actuelle, tu vois, j'ai pas envie.
Tu resteras sur 365 jours.
Si on peut ne pas faire de chronique sur survivre, parce que j'ai pas envie de ressembler à ce Bruce Willis-là, s'il vous plaît.
J'aurais tellement coupé avant depuis 5 minutes, je crois. La semaine prochaine, ça va être la guerre. Enfin, ça va être... ouais, non, c'est...
Eh, où suis-je, la guerre ?
Non, mais le ça va être... Pokémon, c'est ça ?
Oui.
Ah, tu faisais Farid, là ?
Non, pas du tout. C'est Yassa qui a suggéré, mais j'ai pas pensé.
Tu faisais le personnage de Farid, effectivement.
Non, je disais la vérité, par contre, ça me fait très plaisir de venir accompagner des petits podcasteurs qui ont besoin de moi. Bon, visiblement, vous êtes les seuls à me démarcher, donc bon, voilà, mais n'oubliez pas que je loue ma voix et mes services très régulièrement.
Et nous, c'est toujours un plaisir d'accueillir les petits blogueurs que personne ne lit.
Thierry sur Twitter, 115 abonnés, bientôt 3000, grâce à toi. Si tu veux enlever ton maillot, tape 1.
Et le plus triste dans l'histoire, c'est que ces 115 abonnés, il les a achetés.
C'est ça, on m'a dit file 3000 euros, tu vas voir, 1 euro en abonné assuré. Bon, pour l'instant, j'attends.
Je sais pas ce que c'est. À ce bruit affreux, c'est un camion poubelle qui recule.
C'est Dark Vador qui a du mal à respirer.
Je vais écraser Dark Vador, tu crois?
C'est ça, c'est bon, il est mort. C'est l'allergie, c'est le coronavirus. Dark Vador qui a le corona.
Aïe, aïe, aïe.
Tu peux le sampler, ça.
On l'avait pas eu, celle-là.
Comme quoi, tout est possible, hein.
Big up, Hera, qui dit ça d'habitude. Ah. Ouh là là. Ah non, ça c'est Homer Simpson.